Au milieu des fourmis, une série documentaire écrite et présentée par Aurélien Hossé. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du cycle de vie des fourmis, à savoir des stades œufs, larves, nymphes et adultes. La fourmi, comme l'abeille ou le papillon, est un animal ovipare, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un insecte qui pond des œufs. La larve est très différente de l'adulte. C'est un insecte holométabole à métamorphose complète. Son développement passe par 4 stades distincts. L'œuf, la larve, la nymphe, qui est nue ou entourée dans un cocon suivant l'espèce, et l'adulte, également appelé imago, surtout quand il est jeune. Le développement se caractérise par une transformation radicale lors du stade nymphal, stade intermédiaire, immobile, entre le stade larvaire et le stade adulte. Comme chez l'abeille domestique dans sa ruche, une société de fourmis est marquée par l'apparition en continu de nouveaux individus issus de la reproduction d'une ou de plusieurs reines, suivant l'espèce et ses mœurs. Nous pouvons donc observer en continu, au sein d'un nid, des individus de différents âges, à des stades différents, et donc en continu, des œufs, des larves, des nymphes et des adultes. Le temps de développement des différents stades est très variable. En effet, cette durée de développement varie selon la température, la saison, la caste, la taille des fourmis, mais aussi de l'espèce. Par exemple, des travaux de recherche ont montré que chez la fourmi de feu, Solenopsis invicta, le temps total de développement de l'œuf à l'adulte était de 55 jours quand les fourmis étaient placées dans une chambre à 24 degrés, mais seulement de 23 jours quand les colonies étaient placées dans une chambre à 35 degrés. Globalement, d'après la littérature, la plupart des espèces de fourmis ont besoin des temps de développement similaires à ceux de la fourmi de feu, c'est-à-dire d'une à deux semaines de la ponte à l'éclosion de l'œuf, de 2 à 1 mois pour le développement larvaire jusqu'à la nymphose et à l'éventuellement la fabrication d'un cocon, et d'une semaine à 1 mois pour que la nymphe devienne un adulte. Nous parlerons ainsi du couvain et des adultes. Le couvain est un terme que nous rencontrons en apiculture, c'est vrai, et qui correspond à l'ensemble des formes immatures de la société, les œufs, les larves et les nymphes, qu'elles soient enfermées dans un cocon ou non. Le passé est un œuf cassé, l'avenir est un œuf couvé, comme l'a écrit Paul Éluard dans Le Phénix. Cette citation peut s'appliquer au monde des fourmis. Chez les fourmis, seule la reine fécondée peut pondre. Mais il peut y avoir quelques exceptions avec certaines ouvrières, comme nous le verrons ultérieurement, notamment quand la reine meurt. Le nombre de pondus par une reine varie de quelques centaines à 300 millions pour les fourmis maniants en Afrique. En observant un nid, dont en retournant une pierre dans la nature par exemple, les œufs sont souvent confondus avec les cocons. D'ailleurs, nous pouvons nous demander ce que font les œufs sous les pierres, si haut du nid et si près du sol. Eh bien en fait c'est simple, les fourmis profitent de la chaleur et placent les œufs à ce niveau-là pour qu'ils puissent ainsi se développer d'une manière optimale, et c'est la raison pour laquelle, dès qu'on soulève une pierre, le premier réflexe des ouvrières est de protéger les œufs en les retirant de cette zone mise à nu. Pour reconnaître les œufs de fourmis, c'est assez simple. Les œufs sont lisses, blanchâtres et petits. Ils mesurent quelques dixièmes de millimètre et sont d'ailleurs généralement plus petits que la tête d'une fourmi. La taille et la forme de l'œuf dépendent de l'espèce. Les œufs sont regroupés ensemble, généralement à proximité des larves. Il faut savoir qu'il existe chez les fourmis des œufs fécondés et des œufs non fécondés, et que le développement d'un œuf à un adulte dépend de son patrimoine génétique, mais aussi de la nourriture que va recevoir la larve. Les œufs fécondés par des spermatozoïdes évoluent en individu femelle, future reine ou ouvrière en fonction de l'alimentation reçue au cours de la croissance. Les œufs non fécondés évoluent en mâle. Chez les fourmis, comme chez l'abeille, nous observons ainsi une parthénogenèse arénotoque. Mais nous le verrons, il existe quelques exceptions. Thank you. une à deux semaines après la ponte, l'œuf éclot pour mettre au jour une minuscule larve. Les larves sont généralement disposées dans des endroits humides et chauds dans le nid. Au printemps, elles sont peu nombreuses. La reine recommence à pondre et celles que l'on trouve sont celles qui ont passé l'hiver sous la forme larvaire. Dans un nid, quelle que soit sa taille, la larve est généralement reconnaissable. Elle est vermiforme, son corps est blanc, il est souvent constitué de petits anneaux. La larve a généralement une tache sombre au milieu de son corps. Elle est dépourvue de pattes, d'antennes et d'ailes. En fait, les mandibules sont les seuls appendices visibles chez la larve. Sa forme est toutefois spécifique à l'espèce, mais seulement 0,5% des espèces de fourmis recensées sont décrites au stade larvaire. La larve ne ressemble pas du tout à la fourmi adulte. L'individu croît au travers de stades larvaires. Le stade larvaire dure plusieurs semaines. La larve grandit et grossit par mues successives en évoluant par plusieurs stades, de 3 à 5 selon les espèces. Les mues, comme ultérieurement la métamorphose, sont contrôlées par une hormone très importante chez les insectes, l'hormone juvénile. La larve, disons-le, est incapable de se débrouiller toute seule comme pour s'alimenter. Chez les fourmis, les adultes s'occupent de la progéniture. Ainsi, les larves peuvent être directement nourries par la reine elle-même au moment de la fondation d'une nouvelle colonie. Dans ce cas, la reine puise dans ses réserves personnelles pour alimenter la progéniture, en faisant appel aux réserves lipidiques constituées avant le vol nuptial et en utilisant aussi le métabolisme des muscles alaires qui ne servent plus. Cette étape, disons-le, est très éprouvante pour la jeune reine qui peut perdre jusqu'à la moitié de son poids. Chez certaines espèces, comme par exemple celle du genre Myrmecia, la reine sort de son abri pour collecter de la nature, une opération qui n'est pas forcément sans risque, car elle peut devenir une proie pour des prédateurs. Une fois la société fondée, les larves sont nourries par les ouvrières, dites nourrices. Comme nous l'avons vu, les œufs fécondés évoluent en fourmis femelles, mais à la destinée différente en fonction de l'alimentation reçue durant la croissance larvaire. Couramment, l'œuf fécondé évolue en femelle ouvrière. Mais en période de reproduction, la société va produire des futures reines. Enfin, la société, la reine. C'est donc ici que tout se joue au stade larvaire, car à l'origine, les ouvrières et les futures reines ont toutes le même génome. L'alimentation reçue par les larves fait toute la différence. Une larve peu nourrie évolue en ouvrière. Une larve bien nourrie évolue en future reine. Par exemple, chez l'espèce Plagiolepis pygmae, les larves à devenir royales reçoivent par unité de poids 6 fois plus de nourriture que leurs sœurs au destin d'ouvrière. D'après la littérature, d'autres facteurs peuvent activer ou désactiver les gènes responsables du développement des organes propres à la reine, comme les ovaires et une spermathèque fonctionnelle ou les ailes. Nous pouvons mentionner des facteurs environnementaux, comme par exemple chez Myrmica rubra, les taux des hormones du développement ou une variation du taux de méthylation. En 2022, une étude a révélé que chez l'espèce Monomorium trivial, à la fin du stade larvaire, le corps des futures reines se recouvre de tubercules constitués d'une épaisse cuticule sans muscles ni organes. À ce jour, les scientifiques ont plusieurs hypothèses pour expliquer ces protubérances. Il pourrait s'agir d'une protection contre le cannibalisme, d'un moyen de retenir la nourriture ou de rester fixé aux parois du nid. Les travaux de recherche à venir permettront de tester ces hypothèses. Mais au stade larvaire, il est possible de faire des distinctions. L'individu termine son stade larvaire en se transformant en nymphe après avoir éventuellement tissé un cocon, comme chez l'espèce Formica cinerea. Tisser un cocon est une faculté que ne possèdent pas toutes les espèces de fourmis. Par exemple, l'espèce Messor barbarus, et plus généralement, par exemple, les Myrmicinées, ne peuvent pas tisser de cocon. En fait, 8 sous-familles de fourmis sont capables de produire de la soie nécessaire au tissage du cocon. Les larves sécrètent la soie au niveau de leur glande labiale, glande séricigène, et confectionnent le cocon protecteur au sein duquel elles effectuent leur nymphose. Plus d'un mois après la ponte de l'œuf, l'individu devient une nymphe. Ce stade de nymphose peut durer d'une semaine à un mois, suivant les circonstances, mais aussi suivant les espèces. Reconnaître une nymphe est simple. Elle peut être protégée dans un cocon, facilement reconnaissable. Si elle est nue, la nymphe, d'abord blanche, présente un aspect de fourmi adulte recroquevillée sur elle-même. Le stade de la nymphe est principalement marqué par une transformation radicale. C'est la raison pour laquelle la nymphe reste immobile, même si elle est nue, et qu'elle ne consomme aucune nourriture. L'individu subit une métamorphose complète. Il acquiert donc la morphologie caractéristique d'un adulte et se pigmente. En observant une nymphe nue, nous pouvons commencer à distinguer les principaux organes. Son tube digestif qui devient fonctionnel, son système nerveux qui se met en place, ses organes sensoriels qui se dessinent et l'apparition d'appendices comme les pattes ou les antennes. Blanche au début, la nymphe se pigmente progressivement au fil des jours. Sa teinte foncée annonce l'imminence de la dernière mue. C'est la fin du développement nymphal, l'individu mue une dernière fois pour évoluer en une fourmi adulte qui ne grandira plus. L'adulte apparaît à partir de la dernière mue nymphale, 1 à 2 mois après la ponte de l'œuf, suivant les circonstances, mais aussi suivant les espèces. Il a atteint sa taille définitive. Il ne subira plus de transformation au cours de sa vie, si ce n'est l'arrachage de ses ailes, comme nous le verrons chez la jeune reine, ou l'amputation chez les ouvrières lors de combats. Le très jeune adulte, bien qu'encore immature, ne fait plus partie du couvain. Le couvain est déplacé vers un nouveau site du nid quand le nid est perturbé, mais le jeune adulte doit désormais se débrouiller quasiment tout seul. Il est surtout désormais mobile et doit prendre ses fonctions. À l'issue du stade nymphal, la jeune fourmi adulte est d'une couleur brun clair. Ce n'est pas sa couleur définitive. Les jeunes ouvrières ont besoin de quelques heures à quelques jours pour se colorer entièrement et laisser apparaître là où les couleurs identifiées pour l'espèce en question. Tout ceci est déjà contenu dans le patrimoine génétique de l'individu, mais il faut un certain temps pour que la cuticule se pigmente tout en se rigidifiant. Dès à présent, la destinée de l'œuf pondu est révélée. L'œuf a évolué dans une caste de reproducteurs ou de non-reproducteurs, en mâle ou en femelle fertile, en jeune reine ou en femelle stérile, c'est-à-dire en ouvrière. La littérature nous renseigne sur les différentes longévités des différentes castes au sein d'une colonie de fourmis. En fait, l'espérance de vie dans une colonie dépend du sexe de la fourmi, mais aussi de son rôle. Comme nous l'avons vu, les mâles adultes vivent peu de temps. Ils vivent en fait le temps d'une saison, le temps de la reproduction, et meurent peu de temps après la période des accouplements. Une fourmi ouvrière peut vivre quelques mois à 1, 2, voire 3 ans, comme par exemple chez l'Asius niger, en sachant que sa principale zone de danger, en fait, est l'extérieur du nid qu'elle explore pour la nourriture. En sortant du nid, nous le devinons, une ouvrière s'expose à des ennemis, à des prédateurs, à des dangers. Une reine, quant à elle, peut vivre en moyenne entre 5 et 20 ans, comme chez l'espèce l'Asius niger, ce qui est considérable. Une reine de cette espèce, élevée en captivité, détient d'ailleurs le notable record de 28 ans et 8 mois. Chez d'autres espèces, cette longévité de la reine peut être moins importante, en particulier chez les espèces invasives. Par exemple, d'après la littérature, la reine de la petite fourmi de feu, Vasmania auropunctata, peut vivre entre 11 et 14 mois seulement, quand la durée de vie de la reine Monomorium pharaonis est beaucoup plus courte, près de 38 semaines. C'est sur cette question de la longévité des fourmis que se referme ce numéro. La prochaine fois, nous parlerons des différents régimes alimentaires des fourmis. À bientôt. C'était Au milieu des fourmis, une série documentaire écrite et présentée par Aurélien Hossé.